Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power en direct jusqu'à 20h30. L'Arabie Saoudite, le soft power d'un pays de hard power, tel est le sujet de cette émission ce soir et on va s'intéresser aux mutations de ce pays clé au Moyen-Orient, un pays de 30 millions d'habitants, le plus grand et probablement le plus riche du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite exerce une influence considérable sur le monde grâce à ses richesses, son pétrole, mais elle veut désormais exister également avec ses fondations, sa culture ou ses villes numériques. De tout cela, nous parlons ce soir avec plusieurs invités en direct, en studio avec nous, Clarence Rodriguez. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'Arabie Saoudite où vous avez vécu pendant 12 années. On vous doit également deux ouvrages sur ce pays. D'abord le très remarqué Révolution sous le voile aux éditions First et beaucoup plus récemment Arabie Saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne aux éditions Éric Bonnier. À vos côtés, David Rigoulet-Rose, vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Et auteur de Géopolitique de l'Arabie Saoudite, paru il y a quelques années aux éditions Armand Collin. Nous serons également par téléphone avec le chercheur à Sciences Po Stéphane Lacroix. Et puis nous sommes allés sur place la semaine dernière en Arabie Saoudite pour préparer cette émission. Nous avons rencontré quelques témoins, ils acceptent d'ailleurs rarement de parler, mais nous étions à la fondation MISC, on en parlera, et nous étions aussi au cinéma, hein. Ça a l'air simple, mais c'était parmi les premières journées, les premières séances de cinéma qui viennent juste d'être autorisées dans ce pays où certains jeunes saoudiens ont accepté de s'exprimer au micro de France Culture. Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité du numérique, des médias et des industries créatives. Nous parlons du palmarès du Festival de Cannes, rendu public hier soir, ainsi que de la Biennale d'architecture à Venise. En seconde partie d'émission, l'invité innovation ce soir avec vous, Zoé Sfez.
C'est Olivier Dubuisson, il est directeur capital risqueur, directeur de Cap Decisive Management. Et c'est à ce fonds de capital risque que le CNES a décidé de s'associer pour monter un fonds et investir dans des startups dédiées au spatial, un domaine dans lequel la France a des très bons ingénieurs, mais dans lequel elle est en retard industriellement.
20h10, le numérique est politique. Le débat de ce soir sera consacré à la régulation numérique. Doit-elle se jouer à l'échelle de l'Europe? Et nous serons pour en débattre avec Florian Philippot, député européen, président des Patriotes, et Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Milena Heilig, avec en régie Jean Frédérics. Elle a été préparée par David Lavaux, avec pour les réseaux sociaux Pierre Le Damani, car vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter, au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Medium, sur Facebook, où on vous poste des stories Facebook, des stories Instagram, etc., même sur LinkedIn, en podcast et sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. Alors pour commencer cette émission avec vous Zoé Sfez, et dans l'actualité très très récente, c'était d'abord hier soir la clôture du 71e édition du Festival de Cannes, samedi soir, et donc une série de récompenses comme chaque année, une récompense qui est allée pour la Palme d'Or au japonais Hirokazu Kore-eda pour son film Affaire de famille.
Une affaire de famille, effectivement. Alors c'était un palmarès avec un jury donc présidé par Kate Blanchett qui s'est voulu très politique, très engagé, avec des prix quasiment toujours, disons, engagés dans une certaine veine sociale. Donc cette Palme d'Or pour ce japonais qui raconte une histoire de famille très délicatement. Un prix du jury pour Capharnaüm de la Libanaise Nadine Labaki. Un grand prix pour Spike Lee qui revenait après plusieurs dizaines d'années à Cannes pour Black Huntsman. Et puis prix de la mise en scène pour Cold War de Pavel Pavlivski. Aucun prix pour, on va pas vous faire tout le palmarès, mais aucun prix pour les quatre Français qui étaient en lice. C'est assez intéressant de le noter. Les prix d'interprétation aussi ont été assez marqués par disons, une idée ou une volonté de marquer des engagements, avec un prix pour une actrice kazakh, Samal Yeloyomova, j'ai du mal à le dire, et l'acteur italien Jean-Marcello Fonte, qui est le héros du nouveau film de l'Italien Matteo Garrone, qui avait beaucoup marqué avec Gomorra. Voilà, donc ça, c'est ce qui semble marquer ce festival. Donc rien pour les Français, un très grand retour de l'Asie, avec évidemment cette Palme d'Or, mais aussi trois films avec évidemment Jiajiangke, le chinois, le japonais Ryusuke Hamaguchi qui était aussi en compétition, et le coréen Lee Chang-dong, qui ont beaucoup marqué en tout cas le festival. Et puis donc au-delà de cette connotation disons très politique, avec un discours très remarqué d'Asia Argento, l'actrice qui a disons fait un discours extrêmement virulent sur évidemment les suites du mouvement MeToo et d'Harvey Weinstein, on a quand même cette question, pourquoi une présence un peu moins forte des Américains, parce qu'il ne faut pas oublier que Cannes c'est pas uniquement une compétition et un palmarès, c'est aussi un marché du film où Amazon et Netflix ne sont pas venus acheter de films. Déjà, ils n'étaient pas présents en compétition, mais ils ne sont pas venus acheter de films. Et donc, avec cette question, est-ce que Cannes n'est pas en train finalement de se marginaliser, de devenir un festival de cinéma d'auteur européen et de se couper tout à fait d'une industrie du cinéma américaine, d'ailleurs pour lequel son calendrier n'est pas si avantageux que ça. On a l'impression que les Américains vont plus s'intéresser par exemple à la Mostra de Venise qui aura lieu en septembre prochain.
Soft Power, reportage. Zoé Suez.
Et d'ailleurs, il y a une très belle transition sur Venise.
Absolument, puisque vous intéressez à la Biennale d'architecture.
Effectivement, la Biennale d'architecture qui donc va démarrer la semaine prochaine. Alors, il faut savoir que déjà hier, on a su qui serait l'artiste qui représenterait la France à la prochaine Biennale d'art contemporain de Venise. Ce sera l'année prochaine. Eh bien, c'est Lorraine Provost qui a été choisie pour représenter la France. Elle avait déjà été récompensée par le Turner Prize en 2013. Donc ça, ce sera l'année prochaine. Mais entre-temps, vendredi prochain, la Biennale d'architecture qui a lieu en alternance avec cette Biennale d'art contemporain, elle est moins connue et pourtant elle a attiré 300 000 visiteurs en 6 mois il y a 2 ans. Cette année, le commissariat général est assuré par deux Irlandaises, Yvonne Farrell et Shelley McMara, qui ont choisi comme thème Free Space, espace libre. Et c'est l'agence d'architectes française Encore Heureux qui a été choisie pour représenter le pavillon français. Leur projet baptisé Lieu Infini prévoit d'ailleurs de récupérer une partie du matériel qui avait été utilisé par l'artiste Xavier Veillant qui était présent pour représenter la France au pavillon français pour construire leur scénographie. Alors j'ai demandé à Nicolas Delon, l'un des trois membres de l'agence Encore Heureux et donc commissaire de ce pavillon français, qu'est-ce que ça voulait dire précisément de représenter la France à la Biennale d'architecture. Je l'ai rencontré dans les locaux de son agence située au 104 à Paris, le 104 qui est d'ailleurs l'un des 10 lieux sélectionnés dans le pavillon français.
La Biennale internationale d'architecture de Venise se réunit donc tous les 2 ans et essaie de dresser un panorama, un état des lieux de ce métier assez incroyable qu'est l'architecture ou qu'est le métier d'architecte, et qui essaie aussi de le faire résonner avec les enjeux de société. Donc c'est un grand rassemblement avec plus de 90 pays qui sont présents et qui, derrière un thème global, qui cette année est donc Free Space, qui a été posé par les commissaires irlandaises, essaie de donner une interprétation de ce thème-là et essaie de raconter ce qui se passe dans leur propre pays, mais aussi ce qui se passe à une échelle plus internationale. Alors quand on est commissaire du pavillon français, c'est-à-dire qu'on est choisi pour poser un propos, monter une recherche et faire une exposition. Une exposition d'architecture, c'est très particulier car on montre une représentation de l'architecture. On ne peut pas montrer les bâtiments à une échelle 1, il faudrait aller les visiter. Et donc tout ce travail-là qui est passionnant, qui est un travail de commissariat, de scénographie aussi. Donc on a choisi, avec cette exposition Lieu Infini, de présenter des lieux qui pour nous sont des lieux de liberté, en réponse au terme Free Space, des lieux d'expérimentation, d'exploration, qui sont pour nous des lieux nécessaires à nos sociétés qui doivent s'engager très fortement dans des transformations, dans des transitions. On en identifie deux principales, la transition écologique, qui est une urgence, une nécessité absolue, et aussi les transitions politiques, sociales et de solidarité qui font qu'on va pouvoir continuer à vivre ensemble.
Justement, c'est quoi ces 10 lieux que vous avez choisis alors ?
Alors ces 10 lieux sont de nature très variée, certains ont plus d'une trentaine d'années comme la Friche Belle de Mai à Marseille, d'autres sont beaucoup plus récents comme les ateliers Médicis qui à Clichy-sous-Bois va s'ouvrir dans quelques semaines, quelques jours. Ils sont de taille aussi très différente, le 104 ou la Friche Belle de Mai sont des très grands lieux, il y a des lieux de taille plus réduite comme la Ferme du Bonheur à Nanterre ou la Convention à Hoche qui est un habitat partagé en centre-ville de Hoche. Et donc on a essayé de raconter à la fois leur très grande différence, mais on a essayé de faire émerger comme ça des grands principes. Ces principes, ça peut être travailler à partir de l'existant. Ce sont des lieux qui s'installent souvent ou toujours dans des bâtiments qui existent, qui ont été abandonnés. Des bâtiments industriels, des bâtiments de bureaux comme le 6B à Saint-Denis ou comme l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul des Grands Voisins dans le 14e arrondissement à Paris. Et donc on a comme ça un premier principe qui est de dire est-ce que avant de construire de nouveaux bâtiments, on ne pourrait pas déjà habiter ceux qui sont déjà présents. Ensuite, ce sont des lieux qui mettent beaucoup d'énergie dans les gouvernances, les processus de décision, qui sont un vrai défi aussi de pouvoir faire des projets collectifs. Ce sont des lieux qui se construisent aussi petit à petit, par étapes. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vision comme parfois des grands bâtiments ou des grands projets urbains où on se dit, ben voilà, dans 20 ans, on veut que ce quartier soit du bureau et du logement. En fait, ce sont des lieux qui s'adaptent aussi aux besoins réels de la société et de la ville. Et ça, c'est d'une puissance totalement folle parce que ils sont toujours dans une justesse, toujours dans une rétroaction de la société. Par exemple, l'hôtel Pasteur à Rennes, qui a été un lieu comme ça d'ouverture à toutes les pratiques où la seule règle était vous pouviez venir mais il fallait laisser une trace de ce que vous aviez fait dans cet endroit-là. Et en fait, ça a été un incubateur, on pourrait dire, social qui fait qu'ensuite la ville de Rennes s'est aperçue de la richesse de cet endroit-là et a décidé d'engager un projet qui à la fois garde cette ouverture d'accès et aussi lui ajoute une école maternelle parce que dans le quartier il y avait besoin d'une école maternelle. Et donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la programmation en architecture, qui est le fait d'anticiper les besoins de la société plus ancrés avec la vie réelle.
Ça rappelle aussi, quand on pense architecture, on pense souvent au geste architectural.
Alors là, on est très éloigné du geste architectural. On pense que c'est plus du tout une nécessité aujourd'hui de regarder l'architecture sous cet angle-là. Au contraire, on pense qu'on est dans une société complexe. Et le geste, il a une forme de simplicité qui peut le rendre spectaculaire, ça peut être beau. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. C'est vraiment qu'est-ce qui va s'y passer. Et le sous-titre de l'exposition, Lieu infini, on a choisi cette phrase « construire des bâtiments ou des lieux ». À partir de ces deux mots-là, un bâtiment, un lieu, l'enveloppe, le contenant, le contenu, ce qui s'y passe. On questionne aussi ce métier d'architecte qui est notre métier et qui aujourd'hui est aussi un peu fragilisé. Certains pensent qu'on n'aurait plus besoin d'architectes, on pourrait mettre comme ça les données dans des tableurs et puis laisser les bâtiments se construire presque par eux-mêmes. Nous, on pense au contraire que l'architecte a cet intérêt général qui est dans son code de déontologie, a cette conscience de la société, du bien commun. Et donc, on veut, par cette exposition-là, raconter un peu le voyage à faire entre ce contenant et ce contenu, ces bâtiments et ce qui va s'y passer.
Voilà, et donc, ce pavillon français, Lieu infini, donc avec plusieurs dizaines de cabinets de curiosité, avec des objets témoins qui seront chargés finalement de représenter physiquement les 10 lieux donc, français qui sont présentés dans ce pavillon. Ça commence le 24 mai prochain et ça dure jusqu'en novembre. Vous avez 6 mois pour passer à Venise, au Giardini.
19h12 sur France Culture, vous êtes dans Soft Power en direct. On parle ce soir de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le soft power d'un pays de hard power.
بس تعبان بس مهموم بس حايب أنا بخير بس مقيس من اليوم من باكر أنا بخير بس تعبان بس مهموم
Pour commencer cette émission, la chanteuse Waed, c'est assez rare pour être remarquée, une chanteuse, une des premières chanteuses saoudiennes qui connaît actuellement un succès, son nom Waed, pour introduire cette émission sur l'Arabie Saoudite. Et nous sommes pour en parler avec Clarence Rodriguez, journaliste, et David Rigoulet-Rose, chercheur. Nous aurons quatre parties dans cette émission. On parlera dans un court moment de la situation des femmes et de leur libération, entre guillemets. Ensuite, on reviendra sur les grands projets du prince héritier. On évoquera enfin les changements dans la culture, le cinéma et la musique. Et pour commencer, on parle géopolitique et diplomatie. Immense pays relativement peu peuplé, 30 millions d'habitants, l'Arabie Saoudite est un géant du hard power, comme on dit, grâce à ses richesses pétrolières. Son PIB est de 646 milliards de dollars, je le disais. C'est une monarchie arabe dont le roi Salman Ben Abdelaziz est âgé, il a 82 ans. Après une mise à la retraite aussi anticipée que soudaine en juin dernier du prince héritier Mohamed Ben Nayef, pourtant ministre de l'Intérieur, ce fut de fait une sorte de coup d'État. Le nouveau prince héritier est devenu Mohamed Ben Salman, dit MBS, dont on va parler ce soir. À 32 ans, le de facto roi d'Arabie Saoudite est un milliardaire. Il a multiplié ces derniers mois les réformes, ou en tout cas les annonces de réformes audacieuses parfois, notamment sur les femmes ou la culture, plus controversées en matière diplomatique ou militaire, puisqu'il est également ministre de la Défense et patron des conglomérats pétroliers. Dans un article récent de Dexter Filkins, paru dans le New Yorker, il semblerait, selon Dexter Filkins, que Mohamed Ben Salman veuille transformer radicalement le Moyen-Orient en s'alliant avec l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, en se rapprochant au risque de choquer avec Donald Trump, les États-Unis et même d'Israël. Le plan d'ensemble vise d'abord à affaiblir, sinon à affronter l'Iran. Les Saoudiens auraient incité Donald Trump à revenir sur l'accord sur le nucléaire iranien et auraient accepté, toujours selon le New Yorker, que Jérusalem devienne la capitale d'Israël. L'Arabie Saoudite agit contre le Hezbollah libanais, contre les chiites de Syrie et bien sûr contre les Houthis, milices chiites du Yémen, qui bombardent régulièrement le pays. Chaque semaine d'ailleurs, et par exemple lorsque nous y étions il y a quelques jours, des missiles étaient interceptés la nuit par les contre-missiles patriotes au-dessus de Riyad. Pays en révolution donc, disent certains, pays en voie de normalisation, disent d'autres, ce qui n'exclut pas les avancées et les reculs. Ces derniers jours, une dizaine de militants des droits des femmes ont été arrêtés dans le royaume, ce qui atteste des allers-retours compliqués de la révolution selon MBS. MBS qui fait lui-même l'objet d'une adoration dans le pays et de vives critiques. Régulièrement, comme encore ces derniers jours, on annonce sa démission, son assassinat ou son arrestation. Bref, le pays où la presse est contrôlée et censurée est aussi une machine à rumeurs. Et ce d'autant plus que de nombreux milliardaires et même plusieurs princes ont été arrêtés et placés en détention il y a quelques semaines au Ritz-Carlton de Riyad. La plupart ont été libérés, mais on ne sait pas à quel prix et ce qu'ils ont perdu de leur fortune. Révolution, coup d'État, libération, démocratisation ou simple normalisation, dont l'objectif est de se libérer contre les émirs, un peu comme de se libérer à la manière, je dirais, des Émirats Arabes Unis, mais pas beaucoup plus qu'eux. Pour commencer sur ces aspects généraux et géopolitiques, Clarence Rodriguez.
Écoutez, c'est vrai que depuis quelques mois, l'Arabie Saoudite se transforme, participe à une certaine mutation au sein même de la société, mais également sur un plan géopolitique. Tout est lié, en fait. Avec notamment ce jeune prince Mohamed Bin Salman. Alors, bien évidemment, au moment où on se parle, ça vous l'avez un petit peu dit en introduction, c'est vrai qu'on ne sait pas où il est, puisque depuis le 28 avril dernier, depuis qu'il a participé à l'inauguration d'un site de loisirs, méga projet touristique avec son père, on ne l'a plus vu. Et c'est ce qui alimente, et vous l'avez
des
dit,
rumeurs.
Les rumeurs,
mais
les plus
déjà,
folles, etc.
C'était déjà arrivé par le passé, après il avait réapparu, donc on verra.
Oui, c'est pour ça. Donc,
on verra.
Voilà. Mais il est évident, ça prouve quoi ? Ça prouve que ce jeune bouscule, dérange énormément. Vous savez, quand vous avez vécu en Arabie Saoudite, vous avez vécu au plus près et au plus proche donc des Saoudiens et des Saoudiennes, il y a effectivement une certaine population qui souhaite le changement, la mutation de ce pays, d'aller en avant, et c'est notamment, ce sont les jeunes, puisque il y a 50% de la population qui a moins de 25 ans, et 70% de moins de 30 ans. C'est important de le préciser.
Très, très jeune. Ouais.
Très, très jeune. Alors, effectivement, encore une fois, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de tous les jeunes. C'est une partie des jeunes. Mais avec ce jeune prince, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de vie avant lui. C'est-à-dire qu'il a occulté, il a fait table rase de tout ce qui s'est passé auparavant avec les précédents monarques. Il s'est passé des choses aussi, vous savez. Il faut rendre, si vous voulez, à César ce qui est à César, en tous les cas, et notamment au roi Abdallah, qui a été précurseur en matière d'évolution pour les femmes. C'est lui qui a permis justement aux femmes d'être plus nombreuses à travailler dans ce pays.
Il faut dire qu'on revenait de loin.
Et absolument, c'est pour ça qu'il faut... Voilà, on a l'impression, encore une fois, que comme ce jeune phagocyte tous les postes, hein, il est un petit peu partout, vous savez, il est quand même prince héritier.
L'économie, la défense.
À la défense. Donc, voilà, donc, c'est un jeune qui veut effectivement, on dit entre guillemets, et je mets vraiment, et j'insiste là-dessus, sur le moderne, les guillemets, réformer son pays. Sauf qu'on est en train de se rendre compte, aujourd'hui, que finalement, ce n'est pas tout le monde qui adhère à sa politique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, puisque pas plus tard qu'il y a quelques jours, il a fait arrêter et incarcérer des hommes et des femmes de droits humains. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un pays qui change, qui ses réformes, lorsque l'on ne respecte pas les droits humains?
Un paradoxe d'un pays c'est où les femmes sont en train d'être libérées, mais où on arrête les défenseurs des droits des femmes.
C'est une politique de contradiction à laquelle nous assistons en ce moment en Arabie Saoudite.
David Rigoulet et Rose, peut-être pour commencer toujours cette introduction sur un peu la géopolitique, comment vous voyez, notamment, j'ai cité cet article du New Yorker, quelle est la stratégie de l'Arabie saoudite, non seulement dans le Golfe, mais aussi au Moyen-Orient.
Le critère essentiel qui permet d'avoir une grille de lecture sur quasiment toutes les décisions qui sont prises à Riyad, c'est l'obsession iranienne. Ça permet de comprendre à la fois ce qui est décidé en interne et ce qui est décidé en externe. En interne, parce qu'il y a effectivement la perception en face d'un pays de 80 millions d'habitants, dont la population est éduquée. Donc il y a un capital humain qui fait défaut en interne à l'Arabie Saoudite, et donc c'est aussi un des arguments de la dynamique qu'il a lancée pour la transition sociétale avec l'accès au marché du travail, mettre au travail d'une certaine manière les Saoudiens, ce qui ne va pas de soi justement. Et puis en externe, la quasi-totalité de ces décisions, que ce soit
vis-à-vis du Yémen, vis-à-vis de la Syrie, de l'Égypte,
c'est effectivement c'est à lire à travers le prisme effectivement de l'obsession iranienne, qui a justifié des rapprochements qui paraissent paradoxaux avec Israël, etc., mais qui se comprennent en termes de convergence objective.
Il y a des grands ennemis, des plus petits ennemis.
Oui, alors,
le grand ennemi étant l'Iran, on peut et trouver des accords parfois secrets avec Israël.
Et ça explique aussi la dévaluation de la cause palestinienne par rapport, justement, depuis Riyad, qui a été reproché dernièrement, parce que, en premier, je veux dire, au niveau du danger premier, c'est Téhéran pour Riyad.
Et donc indirectement le Hezbollah libanais et indirectement aussi le Hamas à Gaza.
Bien sûr, et là on retrouve la question de Qatar d'ailleurs avec le Hamas. Mais en tout cas pour le Hezbollah c'est très clair. D'ailleurs ça avait été à l'origine de la crise lors de l'affaire Hariri quand
le premier ministre
avait été convoqué,
quasiment mis en
à Riyad, qu'il avait fallu l'intervention bienvenue d'Emmanuel Macron pour que finalement on trouvait une issue favorable à toutes les parties. Mais on voit bien que c'est effectivement aussi sur le champ libanais cette même variable de l'obsession saoudienne qui prévaut.
Clarence Rodriguez.
Oui, c'est vrai que c'est pas Daesh qui est le principal ennemi, je veux dire, de l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran. On y assiste. Et vous savez, ce sont des relations ancestrales, hein, je veux dire, c'est vraiment l'ennemi juré, l'Iran.
Donc
est l'ennemi juré.
Chiite, mais au-delà de ça.
Absolument, oui. Et on le voit bien, regardez. Concrètement, la victime expiatoire parfois aussi de ces relations-là, c'est l'autorité, ce sont les Palestiniens en ce moment. On le voit bien. Vous voyez, c'est quand même incroyable. C'est que jusqu'à présent, tous les pays arabes faisaient bloc, avec notamment la Ligue arabe, qui est l'ombre de soi-même en ce moment, qui était un lieu d'échange vif, aujourd'hui qui n'existe quasiment plus. Et en fait, que devient l'autorité palestinienne? On l'a vu dernièrement. Tout ça parce qu'il y a un rapprochement entre l'Arabie saoudite. Alors, on n'ose pas le dire, vous voyez, à voix haute.
Oui, c'est des réunions secrètes, d'ailleurs.
C'est secrète, mais enfin bon, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Enfin, je veux dire, ça fait quand même très longtemps.
Donc, il y a des réunions, notamment à Riyad, avec les Américains, les Égyptiens, les Émiratis, et bien sûr, donc, les Saoudiens, comme maîtres du balai, un petit peu. Mais alors, sur ce point, peut-être, David Rigoulet-Rose, sur le front sud, que se passe-t-il entre le Yémen et l'Arabie Saoudite? J'évoquais tout à l'heure les missiles qui arrivent la nuit.
Oui, alors les missiles, c'est d'une certaine manière la réponse du berger à la bergère, puisque il avait été à l'initiative en tant que ministre de la Défense, puisque dès l'arrivée de son père au pouvoir, il avait été propulsé ministre de la Défense.
Mohamed Ben Salman,
jeune et pour le moins expérimenté, et donc il a tenté l'aventure yéménite au motif, a posteriori, il a justifié en disant qu'il n'y avait pas le choix. C'était un peu osé compte tenu de la configuration.
Oui, il faut expliquer qu'il y a des milices pro-chiites, pro-iraniennes, liées à l'Iran.
Il y a une population chiite d'obédience zaïdite qui n'est pas directement le même chiisme qu'en Iran. Mais effectivement, les circonstances ont fait qu'il y a eu un rapprochement par opportunité, d'une certaine manière.
Et qui serait armé, dit-on, ça semble assez confirmé, par ou le Hezbollah libanais ou directement par l'Iran.
Alors, il y a effectivement des officiers du Hezbollah libanais qui sont arabophones. Téhéran, vraisemblablement, préfère avoir des officiers arabophones que des officiers des Pasdaran au Yémen. Mais en tout cas, l'évolution de la situation a fait que le soutien de Téhéran s'est affirmé, même si au début, il n'était pas forcément aussi important que Riyad le soulignait. Aujourd'hui, c'est incontestable, effectivement. Et Téhéran a considéré qu'il y avait effectivement une opportunité géopolitique pour embêter sur le flanc méridional le royaume, qui est très sensible, justement. C'est une frontière depuis toujours très sensible, parce qu'il faut rappeler qu'il y a trois provinces du royaume qui avaient été annexées en 1934 au détriment du Yémen.
Et très inaccessible aussi, avec des montagnes.
Absolument, c'est bon.
Dans le désert.
Dans le désert. Alors, il y a Najran, Assir et donc
les Saoudiens n'arrivent pas à déloger ceux qui envoient les missiles.
Alors c'est le défi effectivement de cette aventure, parce que de toute façon on ne fera pas disparaître cette minorité zaïdite du Yémen. Elle est yéménite, c'est le problème. La question, elle était que cette minorité avait capté le pouvoir fin 2014 à Sanaa, et donc ça avait été considéré comme quasiment un casus belli pour Riyad.
Avec nous par téléphone sur ces sujets, Stéphane Lacroix, chercheur à Sciences Po. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Peut-être juste une première question sur les deux faces dont on parlait déjà depuis le début de cette émission. Les deux faces, au fond, qui pourraient résumer Mohamed Ben Salman, dit MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Comment, entre modernisation et peut-être autoritarisme aussi?
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a un projet qui est à la fois un projet de modernisation économique et sociale du pays, très clair, qui a été annoncé dans cette vision 2030, un peu en fanfare, avec une opération de communication bien menée par les Saoudiens et des visites récemment d'ailleurs à Paris le mois dernier. Donc ça, c'est la face effectivement positive de tout ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer des choses aussi qui sont beaucoup moins reluisantes, parce que cette opération se déroule via une prise de pouvoir. En fait, on a en Arabie Saoudite depuis 3 ans ce qu'on pourrait appeler presque un coup d'État ou une révolution de palais, avec un prince, donc ce jeune prince qui était un inconnu il y a 3 ans, hein, que personne vraiment ne connaissait. Il était même parmi les fils de son père, le roi, il n'était pas le plus en vue. Il en avait d'autres de ses frères plus âgés qui avaient occupé des positions dans l'État et des positions prestigieuses. Donc ce petit jeune qui arrive, depuis 3 ans, s'est emparé du pouvoir. Il l'a fait au détriment de toute sa famille, de tous ses frères évidemment, mais de tous ses oncles, de tous ses cousins, de toute l'élite économique du royaume, de toute l'élite religieuse du royaume, avec un processus de concentration du pouvoir qui est tout à fait inédit dans une Arabie qui traditionnellement était régie par un système de consensus, d'équilibre entre factions au sein du pouvoir, au sein de l'élite politique et de la famille, mais aussi à l'extérieur. Donc on est dans quelque chose de tout à fait nouveau qui se traduit par un autoritarisme comme on n'en a jamais vu de mémoire de Saoudiens. Aujourd'hui, les Saoudiens ont peur, c'était pas le cas il y a encore quelques années.
Cette modernisation, comment vous la qualifieriez? C'est quelque chose qui est vraiment, en anglais on dit top-down, c'est-à-dire faite par le haut et qui va après essayer d'être diffusée dans la société. C'est au fond une modernisation qui se fait contre la société civile, pour une part, ce qui explique éventuellement l'arrestation des militants des droits de l'homme.
Oui, absolument, c'est une modernisation autoritaire. C'est quelque chose, d'ailleurs, on feint de redécouvrir cette figure du modernisateur autoritaire avec MBS, mais en fait, on la connaît bien dans le monde arabe. C'était le costume qu'avait endossé Bourguiba.
Oui, Sadat, etc.
Nasser, enfin voilà, les présidents égyptiens, c'est-à-dire celui qui, d'une certaine manière, va apporter une modernisation à la société par le haut, mais sans donner à la société son mot à dire. Ou le chat en Iran, évidemment, si on pense à l'Iran, c'est vraiment la figure de tous les chats du XXe siècle, évidemment, et quand on pense à l'histoire iranienne, on voit que c'est une histoire qui s'est mal terminée. Donc en Arabie Saoudite, on est dans un processus un peu similaire, avec un pouvoir qui ne veut pas que la société prenne ses propres initiatives. Et donc, ce qu'on a vu récemment avec les arrestations de ces derniers jours, là, on a des, dont vous avez dû en parler, des libéraux par dizaines, et en particulier des femmes qui étaient des militantes pour le droit des femmes à conduire, mais aussi pour la suppression du mahram. Hein, vous avez peut-être aussi évoqué cette question de la tutelle des hommes sur les femmes. Eh bien, donc, elles étaient en train d'essayer de monter une petite association, visiblement pour la défense des femmes battues, et elles ont été arrêtées parce que le pouvoir envoie un message très clair. Les initiatives viennent du haut et surtout pas du bas.
Pour terminer avec vous, vous êtes par téléphone Stéphane Lacroix, chercheur à Sciences Po. Quid des relations non seulement avec les Américains mais aussi avec les Israéliens? Vous l'évoquiez un petit peu. Comment est-ce que vous voyez ce qu'on peut appeler, avec beaucoup de guillemets, une façon de redessiner un peu la carte du Moyen-Orient?
Oui, absolument. Bah, aujourd'hui, il y a un ennemi commun qui est l'Iran et qui réunit ces différents acteurs. MBS a été très clair. Alors, c'est pas une nouveauté complète que l'Arabie Saoudite voit dans l'Iran le grand rival, mais c'est vrai que depuis 2015, MBS a fait campagne aussi contre l'Iran. Hein. Il y a un double discours chez MBS. Il y a un discours intérieur qui est ce discours de modernisation autoritaire, puis un discours très nationaliste qui voudrait poser MBS comme le champion de la défense des intérêts saoudiens et des intérêts sunnites contre l'Iran. Et au nom de cette cause commune, effectivement, on a vu un rapprochement s'opérer avec Tel Aviv, qui n'est pas totalement nouveau. Hein. Les Saoudiens ont toujours entretenu des relations de très bas niveau avec les Israéliens, quoi qu'ils en disent. Hein. Les Israéliens ont d'ailleurs toujours considéré que les Saoudiens étaient dans la région des partenaires potentiels, et ça c'est une vieille histoire. Hein. Les Saoudiens n'ont jamais été les plus radicaux dans leur rhétorique sur la Palestine. Mais c'est vrai que depuis 2015, ce qui est tout à fait frappant, c'est que ce rapprochement, aujourd'hui, il n'est plus tu. C'est-à-dire que le MBS, d'ailleurs, dans des interviews récentes, l'évoque à demi-mot, alors que jusque-là, c'était une ligne rouge. Et donc, avec Israël et avec Trump, qui, lui, évidemment, est très proche d'Israël, et donc de la position actuelle du gouvernement israélien, mais aussi...
Et très proche aussi des Saoudiens.
Très proche aussi des Saoudiens, et par ailleurs, ce qui se veut aussi le champion de la lutte contre l'Iran et contre l'influence iranienne, d'une certaine manière, on a l'impression que ces trois acteurs se sont trouvés et entendent aujourd'hui essayer de redessiner le Moyen-Orient à leur manière.
Je vous garde encore pour une très petite question, mais on est un sujet passionnant. D'une certaine manière, ça contredit quand même tout ce que dit un peu la presse française et parfois qu'on a tendance à dire en Europe sur Donald Trump totalement fou, qui a agi en dépit du bon sens vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de la capitale d'Israël, donc qu'il met à Jérusalem. Or, on voit que c'est un plan coordonné, stratégique, pensé pour partie avec les Égyptiens, les Émiratis et les Saoudiens. Donc, alors, il est peut-être tout autant sous pression des Israéliens qu'il ne l'est sous la pression des Saoudiens.
Oui, absolument. Je pense que Trump a de solides alliés dans la région qui le soutiennent, qui ont vu en lui un peu le messie. Hein. Faut se souvenir de la manière dont son élection a été reçue, que ce soit à Riyad ou à Abu Dhabi, alors que Obama était détesté par les Saoudiens et par les Émiriens, mais Trump était vraiment vu comme l'homme qui allait corriger les erreurs, entre guillemets, d'Obama, et donc cet accord nucléaire honni par les Saoudiens et par les Émiriens. Donc, effectivement, on a aujourd'hui ce contexte où l'Amérique et où Trump a des alliés dans la région. Maintenant, la méthode qui est proposée est quand même un peu problématique parce que, d'une certaine manière, quand on écoute les Saoudiens, quand on écoute les Israéliens, on a l'impression quand même que tout ça nous mène à la guerre. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui ne voient dans le règlement de ce conflit larvé avec l'Iran qu'une solution militaire. Alors, on ne sait pas d'où elle viendra. Les acteurs eux-mêmes ne sont pas tout à fait clairs sur ça. Les Saoudiens, d'ailleurs, peut-être n'en ont pas les moyens eux-mêmes militairement, donc aimeraient bien que d'autres y aillent à leur place. Mais, en tout cas, on a aussi quand même des acteurs qui sont en train de pousser vers un règlement militaire et violent de cette question, qui est une vraie question par ailleurs. Je pense que la question de l'influence iranienne dans la région ne doit pas être sous-estimée. Et les problèmes qu'elle pose, en particulier au sein des populations sunnites, des territoires où cette influence s'exerce. Mais la méthode et la solution que proposent les Américains, les Israéliens et les Saoudiens doit évidemment être questionnée.
Merci infiniment, vous étiez par téléphone Stéphane Lacroix, chercheur à Sciences Po en direct sur France Culture à 19h34.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
يا زين يا ولد الزين
حاولت الزين انت ما بين تعبين وتبدلوا العناوين وخلت الموازين.
À l'instant, Ibrahim El Hakami, un chanteur saoudien qui fut le vainqueur récemment de la Superstar 3, une version arabe de Pop Idol. Ibrahim El Hakami connaît notamment le succès lors du Ramadan, régulièrement. Ramadan qui a commencé cette semaine, pour lequel il vient justement de sortir un nouveau morceau, Ners El Saed, que l'on peut traduire par l'aigle de la Haute Égypte. Gros succès cette semaine en Arabie Saoudite et pour une part à travers le monde arabe, en ouverture donc du Ramadan. On est ce soir avec Clarence Rodriguez, journaliste spécialiste de l'Arabie Saoudite, David Rigoulet-Rose, chercheur. On parle de l'Arabie Saoudite, pays du hard power qui s'intéresse au soft power. Alors revenons maintenant sur la question des femmes, où le prince héritier Mohamed Ben Salman dit MBS a promis d'aller loin. D'ici quelques semaines, ou peut-être quelques mois, car la date semble avoir été repoussée, les femmes vont pouvoir conduire en Arabie Saoudite. Le voile n'est plus vraiment obligatoire, et on voit d'ailleurs désormais dans les rues de Riyad de plus en plus de femmes. Une sur dix peut-être, du moins dans les quartiers un peu urbains et bobos, de ce que j'en ai vu.
Vous avez
sans voile.
Bobo.
Donc ça veut dire que c'est peut-être pas le cas dans les petits villages ou dans les villes plus lointaines, même si toutes les femmes sont encore contraintes de porter l'abaya, la sorte, cette sorte de longue robe islamique traditionnelle, bien qu'elle commence à être colorée et non plus seulement noire, quand elle ne se met pas à ressembler à une longue robe de soirée. Zoé se fait sur ces questions.
Ben non, mais alors effectivement, vous l'avez dit, voilà, c'est, il y a fait cette promesse de conduire, enfin, qui devait, donc ça devait être le 24 juin. Clairement, dans le contexte actuel, on a l'impression que ça risque d'être un petit peu reporté, avec notamment cette arrestation de ces trois femmes, parmi elles, des femmes qui étaient très militantes sur ces questions-là. Mais on sait que dans son fameux plan 2030, qui se veut très, très, disons, volontariste, il est question d'intégrer les femmes de manière plus importante dans la vie sociale. Clarence Rodriguez, est-ce que ça passe par quoi? Ça peut passer par quoi? Qu'est-ce qui paraît possible ou pas, quoi?
Alors, c'est vrai que permettre aux femmes de conduire, c'est une avancée qui est très très importante.
Ça leur permet de se déplacer, parce qu'il y a la question de se déplacer seule.
D'avoir une autonomie.
Comment vous faisiez vous-même? Vous ne vous déplaciez pas? Seulement en taxi?
Si, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup.
Non mais sans conduire vous-même.
Non, je ne conduisais pas. J'étais obligée de faire appel à un volant de chauffeur. Au début, j'ai eu un chauffeur particulière, on a l'impression, oh là là, je veux dire, c'est un luxe, etc.
Ouais, bon, tout c'est le monde fait ça. Oui,
sauf que c'est quand même, ouais, sauf que c'est quand même onéreux déjà. Les femmes, effectivement, cette indépendance passe par cette mobilité, mais n'oublions pas. Accorder aux femmes le droit de conduire, c'est une chose, c'est très important. Parce que vous voyez, parmi ces femmes qui ont été arrêtées là dernièrement, vous avez des femmes qui sont les pionnières, qui en 1990 ont été arrêtées, elles ont été 47, elles ont été arrêtées. Et là, effectivement...
Aziza El Youssef, Ayman El Nawiyan,
Madia El Achrouch.
Vous les connaissez
aussi. Je vais vous dire, Madia El Achrouch, j'en parle avec beaucoup d'émotion, parce que Madia donc, a non seulement été... l'héroïne de mon livre Révolution sous le voile, c'est une femme que j'ai beaucoup on s'est aidé, si vous voulez, mutuellement, beaucoup fréquentée. C'est effectivement une militante, mais franchement, on est quand même en 2018. Comment les femmes, on les emprisonne parce que elles ont juste envie de vivre, de respirer, de conduire? Alors que par ailleurs, on veut donner l'impression que c'est un pays qui s'ouvre. Oui, il y a des choses qui bougent. Mais Madia est une femme, en plus maman d'une jeune fille handicapée. C'est une femme, si vous voulez, ben, voyez, elle a été arrêtée. On a été arrêtés avec elle. J'ai vécu un épisode très douloureux avec elle. En 2011, lorsque le roi Abdallah annonce l'autorisation aux femmes de voter, vous voyez, pour les élections municipales en 2015, on a été arrêtées toutes les deux. On a passé plus de 4 heures en garde à vue. Pour moi, je vais vous dire, j'ai vécu un enfer et un cauchemar. Okay, Madia, elle a perdu son travail à ce moment-là.
Voyez. Et là, donc, elle a été réarrêtée.
Et c'est une récidiviste.
Jours, ouais.
Mais en plus, on les accuse d'être des traîtres. Mais vous savez.
Des terroristes.
Terroristes, parce que c'est la loi. Elles sont. Vous voyez. Mais il faut s'interroger quand même. par rapport à tout ce qui se passe là. Là, moi, j'ai pas beaucoup entendu depuis les arrestations de ces hommes et de ces femmes.
On les a eu ces derniers jours, hein, mais très récemment.
Ouais. Mais moi, je vais vous dire, la communauté internationale, les politiques, même ne serait-ce qu'en France.
Oui, dénonce très vite des crimes ou des arrestations en Iran et très rarement, beaucoup plus lentement en Arabie Saoudite.
Attendez, là, il faut, à un moment donné, il va falloir être cohérent par rapport à tout ça.
Mais il y a aussi une incohérence dans le sens, par exemple, aujourd'hui, les restaurants, les cafés sont toujours ségrégés entre hommes et femmes. Ça n'a pas bougé. Il y a toujours un blackout d'une vingtaine de minutes, plusieurs fois par jour, au moment des prières, où tous les magasins sont fermés, où on ne peut pas rentrer dans un café, on ne peut pas en sortir, etc. Donc, c'est une libération, une évolution d'aller de réguler. Les roses, rosées, pardon, qui est un peu avec plusieurs degrés.
Oui, je dirais pas libération d'ailleurs, je dirais plutôt une libéralisation. Parce qu'en réalité, c'est d'une certaine manière, c'est pour des questions, des critères économiques en réalité. Ces choix de société sont faits d'une certaine manière, sont des choix contraints. C'est-à-dire que dans la perspective de Vision 2030, il est effectivement question de permettre notamment l'accès élargi aux femmes, c'est-à-dire d'arriver à un tiers à peu près de femmes qui seraient sur le marché du travail, et de corriger un certain nombre d'hypothèques justement de développement de cette assiette pour le travail. Quand on pense que
ce qui passe par une saoudisation très forte.
Oui, qui est très compliqué parce que ça repose la question de l'employabilité des Saoudiens, garçons, femmes confondus, enfin filles, garçons confondus. Et là, c'est un autre enjeu, mais en tout cas, pour ce qui est des femmes à proprement parler, il y a une raison économique, c'est que le fait d'avoir un chauffeur, ça coûte environ $400 par mois. Donc, on a calculé que c'était l'équivalent d'1% du PIB. Alors, ça paraît dérisoire, mais en réalité, c'est pas négligeable du tout. Et donc, c'est effectivement, ça s'inscrit dans la libéralisation des mesures économiques, surtout. Ça prend un tour sociétal, mais il y a probablement un malentendu vu d'Occident, où on considère que c'est une libération des femmes. En réalité, c'est une libéralisation moins sociétale qu'économique, pour des raisons de contrainte d'une certaine manière, qui pourra aller jusqu'au bout des choix de sa logique.
Mais justement, est-ce que dans le même sens, évidemment, on parle de ce fameux projet 2030, vous l'avez rappelé, Clarence, il y a 70% de la population qui a moins de 30 ans, une partie de ces jeunes qui ont été formés à l'étranger, et puis il faut rappeler quand même que l'Arabie Saoudite, il y a un état providence qui est extrêmement lourd, avec les études payées, les appartements payés, etc. Et qu'on a, il y a plusieurs analyses dans ce fameux article du New Yorker, mais évidemment, ce n'est pas une nouveauté, qui nous dit que ce système va arriver très très vite, va finir par tourner sur lui-même. Et donc, évidemment, est-ce que ce n'est pas tout simplement un principe de réalité, ou en tout cas de réalité forcée, qui consiste à dire qu'on n'aura plus les moyens de ça, de toute façon?
Mais c'est exactement ça. C'est que depuis fin 2014, depuis que l'Arabie Saoudite est confrontée à cette crise économique, due notamment à la baisse du prix du baril de pétrole...
Bon, qui remonte en ce moment et qui risque de se rapprocher des 100 dollars le baril, ce qui, à ce moment-là, règle un peu le problème de l'économie saoudienne. Hein,
absolument.
Au passage, hein.
Sauf que, si vous voulez, il y a eu quand même des coupes franches. Oui, c'est aussi... Il y a du contrôle. Mais... je veux dire que, effectivement, cette population était sous perfusion de l'État. Vous voyez, effectivement, obtenir donc des subventions. Il y a eu même, vous savez, des coupes franches dans les salaires des fonctionnaires. Donc ça, c'est aussi, comme disait justement David Rigoulet-Rose, c'est que c'est une réalité économique.
Alors, troisième sujet dans cette émission, les projets emblématiques et un peu pharaoniques du prince héritier Mohamed Ben Salman. MBS supervise actuellement trois gros projets, un projet majeur pour l'Arabie Saoudite. D'abord, Vision 2030, on en a parlé. C'est une sorte de roadmap, comme on dit, de feuille de route pour le développement du pays indépendamment du pétrole. C'est un projet de soft power, au fond, qui place la culture, le numérique et les smart cities en son cœur. Ensuite, la fondation MISC qu'il préside et qui est dédiée à aider la jeunesse à rejoindre les grandes universités, notamment américaines, à se former aussi au digital ou même aux médias. Enfin, le projet NEOM, une ville sur la mer Rouge qui serait créée de toutes pièces, donc sur une île, en partenariat avec l'Égypte, la Jordanie et peut-être Israël, qui pourrait entrer autour de table. Pour l'instant, cette Smart City n'est sortie ni de terre, ni du sable, ni même de l'eau, mais c'est, dit-on, un projet phare pour MBS. Alors, ici encore, ces projets pharaoniques sont un peu contradictoires. Vision 2030 veut penser l'après-pétrole, mais on l'a dit, les cours du brut remontent vers les $100 le baril. La fondation MISC veut former les jeunes aux médias, alors qu'ils sont censurés en Arabie Saoudite. Enfin, la Smart City NEOM est d'une ambition un peu extravagante, quand le Financial District, par exemple, de Riyad, n'est même pas achevé. achevée et accuse des années de retard quant à sa construction. Et j'ai interrogé un certain nombre d'équipementiers, de personnes qui construisent justement cette financial district ou spécialistes de tout ça en Arabie Saoudite et qui pensent que la cité néon n'est pas prête de voir le jour. Ambition donc pour MBS, mais projet en forme de coquille vide, peut-être, dont on peine à voir sinon la vision, du moins la réalité. Alors nous sommes à Riyad, au siège de la fondation MISC, pilotée par le prince héritier, je l'ai dit, saoudien Mohamed Ben Salman. Après nous avoir fait visiter la fondation, bâtiment impressionnant en centre-ville, Ali Al-Karni nous reçoit. Il est le conseiller du président de cette fondation, fondation MISC, Ali Al-Karni.
Ali Al-Karni, conseiller dans la fondation MISC, ici à Riyad, MISC Foundation.
La fondation MISC est une fondation à but non lucratif qui a été créée aux environs de l'année 2009 par son Altesse royale Mohamed Ben Salman et elle s'appelle la fondation du prince Mohamed Ben Salman. Nous nous sommes développés autour de trois domaines d'intérêt. Le premier étant l'éducation, le deuxième la culture et le troisième les médias. Comme vous le savez probablement, un pourcentage très élevé de notre population est âgé de moins de 30 ans. Dès lors, notre objectif a été de créer de nombreuses opportunités pour ces jeunes, de les émanciper. Par là, je parle d'empowerment, c'est-à-dire que nous offrons des programmes tels que, par exemple, celui avec Harvard. L'été, nous envoyons environ 100 étudiants, garçons et filles, à un programme qui s'appelle le Young Leadership Program d'Harvard. Cela appartient à la vision, cette vision autour de laquelle nous développons et qui a pour objectif de développer l'Arabie saoudite en travaillant sur l'éducation, la scène culturelle. À l'avenir, l'Arabie saoudite pourra peut-être tirer des revenus à travers toute sa scène culturelle. Nous offrirons des musées, des théâtres, des cinémas, et cela nous permettra d'engranger des revenus. Tout ça, c'est cette vision 2030 qui se décline en plusieurs volets et qui couvre l'ensemble de nos objectifs. Et notre fondation est l'un de ces volets, comme d'autres organisations d'Arabie saoudite, et qui ont pour objectif d'atteindre cette vision 2030.
Cet entretien a été enregistré la semaine dernière à Riyad, en Arabie saoudite, traduction Paloma Goulemont. Alors à l'instant, on est évoqué un des trois gros projets, il y en a d'autres, mais un des principaux projets du prince, la fondation MISC, il y a aussi cette ville Neom et Vision 2030. Peut-être chacun d'entre vous, une petite réaction sur ces projets. On commence par vous, David Rigoulet-Rose, peut-être sur Neom, la ville, la smart city de la mer Rouge.
Oui, alors il y a une logique d'affichage très très ambitieuse. D'ailleurs, ça justifie en partie sa tournée aux États-Unis parce que...
Pour chercher de l'argent,
oui, parce qu'on a évalué à quelques 500 milliards de dollars le projet, donc pour l'instant ça relève de la théorie de la pure fiction. La question
un
est
oasis quoi, une sorte de
oui.
On va peut-être arriver dans le sable
avec quelques
un jour.
Nuages. Donc la question c'est effectivement sa concrétisation. Ça fait partie, c'est le problème d'ailleurs de beaucoup de ces projets qui sont très ambitieux dans les annonces, mais qui posent des problèmes dans leur réalisation et dans leur budgétisation. Et c'est d'autant plus important d'ailleurs qu'il y a des réticences et des interrogations des potentiels investisseurs, y compris des outre-Atlantique, hein, c'est-à-dire qui sont pour le moins perplexes sur la viabilité des annonces du prince Mohamed Bin Salman.
Mais alors, il faut dire aussi que dans ce fameux plan, il y a la volonté, vous l'avez dit, de lancer toute une industrie des loisirs et de la culture. Alors, il faut rappeler que quand il est venu en France, le prince Ben Salman a parlé de cinéma, mais il a aussi conclu un partenariat avec l'Opéra de Paris, qui doit être conseillé et qui va avoir un espèce de contrat un peu équivalent à celui que le Louvre avait eu pour Abu Dhabi pour construire un opéra et une programmation d'opéra à Jeddah. Ça fait partie des grands projets de Mohamed Ben Salman. Tout ça est d'autant plus intéressant qu'il faut se rappeler qu'il n'y avait plus de concerts en Arabie Saoudite jusqu'à il y a quelques mois. Il y a eu, juste au début du mois, le premier concert d'un orchestre classique avec des femmes qui jouaient non voilées, mixtes. C'est un orchestre de chambre français qui a été créé pour l'occasion et qui a fait une tournée dans la région.
Oui, c'est vrai que c'est important, ça c'est à souligner. Vous savez, en Arabie Saoudite, puisque vous en revenez, il n'y avait pas de musique, par exemple, dans les magasins, c'était proscrit.
C'est vrai qu'il y en a maintenant.
Et il y en a maintenant dans les cafés, dans les restaurants, etc. Donc ça participe, si vous voulez, à une certaine évolution.
C'est même si, il faut quand même dire qu'il y a eu donc tout ce grand retour, il y a eu des stars du monde arabe, disons des Libanais, une chanteuse libanaise, Hind, qui est venue chanter, et puis il y a eu une grande star de Arab Idol, la Tamer Rosny, qui est un Égyptien qui est venu. D'ailleurs, j'ai vu vos tweets sur la question Clara Rodriguez, et sur le billet même du concert, il était écrit « Interdit de se trémousser, interdit de danser ». Donc on veut bien faire le concert, mais vous n'avez pas le droit de bouger, vous devez rester vissé à votre siège. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Ça fait partie des contradictions, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'un côté, on dit, ok, il y a un concert, vous pouvez y participer, alors tout le monde, je veux dire, exulte, etc. Et d'un autre, attention, on va pas trop vite, il faut faire attention. Et vous voyez, ce que vous venez de dire, ça résume exactement la politique de cette société aujourd'hui.
Nous sommes à Riyad, devant le premier multiplex qui vient juste d'ouvrir, et deux jeunes Saoudiens sortent d'une séance de Avengers. Rares sont ceux qui acceptent de parler on the record aux médias. Il a fallu longtemps pour arriver à en trouver. Mais ces deux Saoudiens, un jeune homme et une jeune femme, s'assoient avec nous à une table à l'intérieur du mall, le centre commercial, et nous parlent.
We are in Riyadh City, Saudi Arabia.
Nous sommes en Arabie Saoudite, dans le centre commercial de Riyadh Park. Oui, nous sommes près du cinéma.
Qu'est-ce que vous venez de voir au cinéma?
J'ai vu Avengers Infinity Wars en version IMAX.
C'était bien?
Oh, c'était totalement incroyable. Mieux que ce que j'attendais.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
C'était une nouvelle expérience pour nous ici en Arabie Saoudite. C'était très agréable de voir beaucoup de gens dans le cinéma et puis un chouette film à voir pour la première fois.
Vous pensez que ça va continuer cette expérience?
Oh oui, je pense que c'est juste le début et qu'à l'avenir, ce sera encore mieux.
Il y avait d'autres films ce soir?
À l'écran ce soir, il y a six films, Rampage, Avengers, Black Panthers et trois autres films dont j'ai oublié le titre. Attendez, si, Ferdinand.
Le cinéma, il est aussi divisé en deux types de publics.
Alors, tous les jours, enfin, il y a des jours avec juste pour les familles et d'autres juste pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes peuvent y aller tranquillement. Aujourd'hui, non, c'est mixte et je suis venue avec mon frère et les maris et femmes sont venus ensemble. Puis, peut-être que ce soir, demain, ce sera simplement pour les hommes.
Quelle était l'ambiance ce soir? Les gens étaient très festifs, heureux, ils applaudissaient, ils parlaient.
Enfin, les gens étaient très calmes, il n'y avait pas de chahut. Alors, évidemment, lorsque c'est drôle, les gens rient. Mais dans le public, les gens ne parlaient pas fort. Franchement, c'était très agréable.
Vous pensez que ça inaugure un nouveau mouvement?
Oui, comme je vous le disais, la semaine prochaine, ce sont les vacances d'été. Et avant, nous n'avions pas beaucoup de distractions, de lieux où nous rendre. Et il fallait simplement voyager à l'étranger pour aller voir un film. Maintenant, nous avons des cinémas sur place. Il y a une grande franchise d'autres cinémas qui vont ouvrir à Riyad. Et nous pourrons voir d'autres films, d'autres choses. Et des films qui viennent juste de sortir, comme Avengers, qui vient juste de sortir sur les écrans. Et je n'ai pas à voyager à l'étranger pour voir ces films.
Femme, pour une fille comme vous, c'est aussi quelque chose de particulier.
Je crois que c'est très bien pour les deux, pour les hommes et pour les femmes. On va tous au même endroit. Et il n'y a plus une discrimination entre hommes et femmes, une séparation. C'est ouvert pour tous les deux. Et puis pour les cinémas, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir les hommes et les femmes et que l'on aille ensemble s'amuser au cinéma. Je crois que c'est très bien pour les deux, pas seulement pour les femmes.
Voilà, deux jeunes Saoudiens interviewés la semaine dernière à Riyad en Arabie Saoudite, traduction Paloma Goulmo. Alors, on le voit, MBS, le prince Mohamed Ben Salman vient d'autoriser l'ouverture des salles de cinéma en Arabie Saoudite, où le premier cinéma projette Avengers ou Black Panther, on l'a dit, c'est depuis le 18 avril, c'est le groupe américain AMC, détenu par le chinois Wanda, qui a inauguré cette salle où nous sommes allés. Donc, 40 multiplex sont prévus d'ici 5 ans et une centaine d'ici 2030. Une évolution similaire est envisagée dans les arts plastiques, le spectacle vivant ou encore la musique, Zoé Sfez, dont vous disiez d'ailleurs qu'elle était largement interdite jusqu'à présent.
Oui, alors évidemment sur le cinéma, parce qu'il faut dire quand même, c'était très symbolique, mais l'Arabie Saoudite était officiellement présente cette année à Cannes avec 3 courts-métrages et moyens-métrages qu'on a un petit peu, on a l'impression qu'ils ont été sortis ex nihilo pour dire qu'ils étaient là. Il y a visiblement un partenariat qui se noue après celui avec l'Opéra de Paris, avec la FEMIS, pour que la FEMIS forme des réalisateurs saoudiens qui pour le moment n'existent pas. Et puis il faut quand même dire quelque chose de très important et de très majeur, c'est que le dernier tableau de Léonard de Vinci qui n'appartenait pas à des collections publiques, qui appartenait à un collectionneur,
dont l'authenticité a parfois été
discutée, l'authenticité reste encore discutée, mais néanmoins
le sauveur du monde,
le sauveur du monde Salvator Mundi, qui a été vendu chez Christie's, c'était en novembre dernier, et alors il a été
450 millions de dollars,
380 millions d'euros. Pendant des jours on n'a pas compris qui avait acheté ce tableau. Tout ce qu'on savait, c'est que le Louvre Abu Dhabi avait tweeté directement juste après
qu'ils allaient le montrer.
Mais qui l'avait acheté pour eux? Et ben, ce que, en tout cas, on a cru comprendre à ce moment-là, c'était que c'était le Saoudien Badr Ben Abdullah Ben Mohamed Ben Farhan Al Saoud, qui est donc un ami, un proche en tout cas de MBS, qui n'a jamais collectionné d'œuvres d'art.
Il l'avait acheté pour lui.
Clairement, qu'il l'a acheté pour MBS. Et là, clairement, c'est une vraie volonté de l'Arabie Saoudite de se positionner, parce que jusque-là, c'était plutôt le Qatar qui investissait sur ce type d'investissement.
Pour terminer, un mot peut-être, David Rigoulet-Rose, sur l'ouverture du tourisme, notamment avec un projet de visa. Il faut rappeler que l'Arabie Saoudite n'accorde pas de visa de tourisme, mais pourrait inaugurer et mettre en place un visa de tourisme, peut-être cet automne.
Oui, alors effectivement, ça s'inscrit également dans le projet Vision 2030, hein, c'est-à-dire diversifier l'économie et la valorisation du patrimoine saoudien, et notamment il y a des découvertes récentes de pétroglyphes qui ont été faites dans le désert, en dehors des sites d'ailleurs qui sont déjà classés par l'UNESCO. Donc c'est l'idée de valoriser ce patrimoine pour favoriser le tourisme, qui soit pas uniquement le tourisme religieux, c'est-à-dire du Hajj ou du Umrah, c'est-à-dire le grand et petit pèlerinage. Et d'ailleurs, lors de sa visite à Paris, il y a eu un accord qui était passé avec les Français, justement, pour créer une agence culturelle qui serait un peu sur le modèle, qui serait inspirée de France Museum pour Abu Dhabi et qui serait dans cette perspective.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les paysages en Arabie Saoudite sont absolument magnifiques. Les déserts, parce que je parle, il y a plusieurs déserts. Madain Saleh, justement, qui est un site archéologique, c'est vraiment sublime. Alors effectivement, moi, je voudrais revenir justement sur l'attribution des visas, notamment pour les femmes. Seules les femmes de plus de 25 ans pourront voyager sans le tuteur, sans un membre de la famille. Et bien évidemment, les autres seront obligés donc d'être accompagnées d'un membre de la famille.
Voilà. Visa pour rentrer, visa pour sortir, voilà, on voit bien la complexité. Je termine avec 3 courtes informations pour un peu montrer toujours cette complexité. D'abord, l'Église, les relations avec l'Église catholique se rapprochent. On sait que le cardinal Torrent s'est rendu en Arabie Saoudite, il a même été pris en photo et montré dans la presse arabe, ce qui est un signe. On sait aussi qu'il y a des messes comme ça, qui parfois, secrètement, ont lieu. Une a été célébrée d'ailleurs par le cardinal Torrent, même si c'est pas évidemment pour l'instant public. Deuxième information, et là c'est l'information France Culture, les 2 groupes principaux de médias, je pense à NBC et à Rotana. Alors NBC, c'est le géant du monde arabe, c'est un groupe qui est présent avec NBC 1, 2, 3, 4, etc., présent un peu partout dans le monde arabe. Première chaîne du monde arabe, qui fait notamment Arab Idol, The Voice, Arab's Got Talent, etc. Le groupe, son président a été arrêté, il a été placé au Ritz, et on sait, selon mes informations, qu'une reprise en main du premier groupe privé a été décidée, 60%, sera détenu par l'État saoudien désormais. Donc le groupe n'est plus privé. Et c'est un groupe qui tombe sous le ministère des Finances, c'est-à-dire indirectement sous MBS. 60%, c'est à peu près ce que devrait avoir l'État selon nos informations. Quant au groupe Rotana, la même chose se passe. Là, c'est un groupe qui appartient au prince Al-Walid. C'est un groupe essentiellement de musique. Et il a été aussi enfermé au Ritz-Carlton pendant quelques temps. Et là, on est dans un processus assez proche, même si on ne connaît pas le montant de l'investissement du fait que le gouvernement saoudien reprendrait une partie du groupe. Rappelons que Al Arabiya, qui appartenait à NBC, avait déjà connu le même sort il y a quelques années, puisqu'elle avait été nationalisée, si on peut dire. Et puis pour terminer, dernier point, saoudisation, on l'a dit, saoudisation très forte, sous forme de nationalisme. On écarte un peu les Libanais, les Syriens, etc., pour se reconcentrer sur les Saoudiens, avec une vague très importante vagues de départ d'expatriés qu'on connaît depuis quelques semaines à Riyad et qui montre que, pour le coup, les Saoudiens sont en train de reprendre le pouvoir dans les entreprises, y compris internationales ou même, bien sûr, saoudiennes. Et là, on voit aussi une évolution qui va se traduire par un certain nombre de grandes mutations qui sont en cours. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Clarence Rodriguez, vous êtes journaliste spécialiste de l'Arabie Saoudite. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Révolution sous le voile aux éditions First et plus récemment Arabie Saoudite 3.0, Parole de la jeunesse saoudienne aux éditions Éric Bonnier. Merci à vous aussi, David Rigoulet-Rose. Je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique de l'Arabie Saoudite, c'est paru aux éditions Armand Collin. Je tiens à remercier deux personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission, Mourad Haddak et Lounès Bouasker en Arabie Saoudite. Et puis pour aller plus loin sur tous ces sujets, l'Arabie Saoudite en mutation, le soft power d'un pays de hard power, on vous a posté des articles clés et des références d'ouvrages sur Twitter au mot-clé soft power et sur notre page sur le site de France Culture. Soft Power dans un instant, seconde partie de cette émission avec à 20h10 le débat le numérique et politique. Le débat de ce soir sera consacré à la régulation numérique. Doit-elle se jouer à l'échelle de l'Europe? Et nous serons pour en débattre avec Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG Le Mouvement.ONG et Florian Philippot, député européen, président des Patriotes. Et dans un instant, à 20h, Zoé Sfès, votre invité innovation.
Olivier Dubuisson, il est en face de nous. C'est le directeur général de Cap Decisive Management, un fonds de capital risque auquel le Centre National des études spatiales, et bien avec qui le Centre National des études spatiales va créer un fonds pour investir dans les start-up du spatial.
Tout cela à suivre après le chanteur saoudien Abdul Majid Abdullah. France Culture, il est 20h passées de 1 minute.
France Culture, soft power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Olivier Dubuisson.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité innovation. Alors là, vous êtes un vrai invité en innovation puisque vous êtes donc le directeur général de Cap Decisive Management. Qu'est-ce que c'est Cap Decisive Management?
C'est une société de gestion de fonds de capital risque. Nous investissons depuis 17 ans maintenant dans des jeunes startups. En général, des startups technologiques.
Voilà. Et alors justement, c'est intéressant parce que finalement, il l'a annoncé dans les échos, le patron du CNES, le CNES, donc c'est le Centre National des Études Spatiales, et bien il vous a sélectionné, on va dire en tout cas, pour engager, pour initier avec vous un fonds de capital innovation en faveur des entreprises qui seraient liées au spatial et à ses applications. Ce fonds, il a été baptisé Cosmi Capital, c'est ça son petit
tout à
nom.
Fait.
Premier fonds d'investissement français dédié au spatial, qui a pour objectif, c'est les chiffres que vous avez communiqué, d'investir, de réunir entre 80 et 100 millions d'euros d'ici quoi, l'année prochaine, quelques mois, pour investir et accompagner des jeunes entreprises basées dans l'Union européenne et promouvoir le spatial et son usage, parce qu'on sait qu'en France, on a de très bons chercheurs, notamment au CNES, mais pas que, sur le spatial. Pourquoi est-ce qu'il manquait un tel fonds, peut-être vous dans l'absolu, vous qui connaissez bien ce paysage, et quelle opportunité ça représente pour vous, qui est un fonds de capital risque, de s'associer avec une grande institution française comme ça?
Alors, en effet, le CNES a émis un appel à manifestation d'intérêt pour la gestion d'un fonds spatial. Plusieurs sociétés de gestion ont répondu, dont nous. Finalement, ils nous ont sélectionnés à l'issue de cet appel d'offres, en fait. Il n'existe pas aujourd'hui, en effet, de fonds dans le monde du spatial. Et pourtant, il y a une révolution qui est en train de s'y dérouler. Ce qu'on appelle le New Space, désolé pour l'anglicisme.
Qu'est-ce qu'on appelle le New Space?
Le New Space, c'est, si vous voulez, certains l'appellent la privatisation du spatial. D'autres l'appellent le spatial 2.0. C'est tout simplement le fait de dire que le spatial n'est plus dédié aux agences
étatiques,
gouvernementales, comme la NASA, l'ESA ou même le CNES, mais que des start-upers peuvent aussi envisager de s'y développer. Et en fait, ce mouvement a véritablement démarré autour des années 2010, quand SpaceX s'est mis à travailler en fait avec la NASA.
Et SpaceX, donc la firme d'Elon Musk, qui voilà. N'a pas cessé de multiplier des lancements à grand renfort marketing, dont celui voilà. de la fameuse.
On est beaucoup dans la communication, mais on est aussi dans la réalité. Il a réussi à faire des choses que personne pensait qu'il était capable de faire avec de l'argent privé. Et l'objectif, c'est, si vous voulez, de diviser par 10, c'est en train d'arriver, le coût de lancement d'un satellite, en fait.
Nous, justement, vous m'avez dit qu'il y a ce qu'on appelle le up et puis le down. Voilà. Il y a deux types de savoir-faire. On sait que les Français, on est plutôt des bons ingénieurs. Est-ce qu'on est bons dans autre chose ? Concrètement, ces fameuses start-up, vous me disiez qu'il y en aura probablement 25, soit que vous créerez, soit qui sont déjà existantes, elles travaillent précisément sur quoi et quels sont peut-être leurs clients ?
Globalement, il y a deux grands segments, comme on en a discuté. C'est ce qu'on appelle l'upstream, c'est-à-dire toutes les technologies qui permettent de lancer des satellites en orbite. Donc ça recouvre évidemment le lanceur, toutes les technologies afférentes, mais également toutes les constellations de satellites. On sait aujourd'hui que les satellites sont en train de se miniaturiser. On est passé de satellites de plusieurs tonnes à des satellites, des nanosats de quelques kilos. Et donc, toutes ces technologies nécessitent de miniaturiser tout l'environnement et de aussi réfléchir à la façon de fabriquer les satellites. Avant, on en fabriquait un, maintenant, on fabrique des centaines, et ça revoit complètement la logistique du spatial, la logistique de fabrication et les usines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'upstream. Le downstream, c'est le complément, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire toutes les applications qui vont découler de tous ces satellites qui vont être envoyés. Puisqu'on envoie de nombreux satellites, il va y avoir de nombreuses données qui vont revenir sur Terre. Et donc, il va falloir traiter ces données et les utiliser pour un certain nombre d'applications qui, aujourd'hui, ne sont pas véritablement adressables par les satellites actuels.
Et alors, vous me disiez, ce qui est particulier sur ce secteur du spatial, c'est que, d'une part, c'est un secteur qui est très gourmand, parce qu'en fait, ça coûte très cher. C'est des technologies, c'est un peu différent que de monter une start-up comme Blablacar, j'imagine, parce qu'évidemment, il faut investir, quoique on n'en sait rien. Et la vraie question, c'est, on a l'impression que vous parlez d'initiation, que le CNES a initié cette idée du fonds. On a l'impression que ça y est, il y a eu tous les discours d'Emmanuel Macron avec un fonds de plusieurs millions d'euros pour l'innovation, etc. Est-ce que ça décolle ou est-ce que finalement ça a toujours été là, cette effervescence ?
Alors, les gouvernements s'enchaînent, mais la politique de l'innovation reste. C'est ça qui est quand même bien, c'est rassurant. Moi, je suis dans ce monde pratiquement depuis 20 ans et j'ai vu au fur et à mesure des gouvernements qui se sont succédés, des programmes d'investissement au travers de programmes de fonds de fonds ou de programmes d'investissement direct dans les startups. Et en fait, ça fait 20 ans que ça existe. Il y a eu un nouvel élan avec la création de la BPI
dans
les années 2012, je crois. Ouais. Et en fait, la BPI n'est que le regroupement de choses qui existaient déjà, qui s'appelait OSEO, Fonds Stratégique d'Investissement et CDC Entreprises. Et donc, l'élan, il est déjà donné depuis longtemps, mais il est amplifié par la confiance que Emmanuel Macron peut dégager, on va dire, et plus les montants supplémentaires qui souhaitent investir autour de l'innovation.
Évidemment, une toute dernière question sur cette chose-là. On a parlé notamment beaucoup de la manière dont les scientifiques français s'en vont à l'étranger, partent, alors qu'ils sont plutôt très bons. Sur quoi on est bon et qu'est-ce qui permet aujourd'hui de rendre plus facile le fait de créer une start-up ? Je suis aujourd'hui chercheur, j'ai déposé un petit brevet, j'ai trouvé une technologie. Pourquoi j'irais me lancer dans cette affaire ?
Sincèrement, il y a tous les éléments en France pour créer une start-up, notamment le statut du chercheur-entrepreneur qui existe déjà depuis 18 ans au travers de la loi Allègre. Donc un chercheur peut, à travers sa technologie, créer une start-up. Et on est bon véritablement dans beaucoup de techno, y compris le logiciel, sciences de l'ingénieur. En santé, c'est pas assez connu. On a énormément de sociétés qui sont développées. Nous, on a créé de très belles sociétés qui valent aujourd'hui plus d'un milliard dans le monde de la santé. Et il y a vraiment tous les éléments en France pour créer ces sociétés. J'en veux pour preuve que Quand une société américaine rachète une société française, elle veut surtout pas délocaliser la société qu'elle rachète. Elle souhaite que les ingénieurs restent parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont beaucoup moins chers que les ingénieurs basés en Silicon Valley. Et donc, il y a tout pour réussir.
Merci beaucoup Olivier Dubuisson. Donc cette levée de fonds, elle est prévue pour 2019.
Q1 2019, on espère. Voilà.
Q1, voilà, vous Q1. Parlez avec...
Premier trimestre 2019, premier trimestre. Pardon.
Mais c'est bien. Mais voilà. Non, mais c'est bien, on entend le jargon, mais c'est bien. Donc c'est le premier trimestre 2019
voilà.
Pour une vingtaine de start-up dédiées au spatial.
On financera entre 20 et 25, oui.
Merci beaucoup.
France Culture, il est 20h passées de 9 minutes précisément.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Le débat de ce soir est consacré à la régulation numérique. Dans le débat, le numérique et politique, doit-elle se faire, doit-elle se jouer à l'échelle de l'Europe? Et nous sommes pour en débattre avec Florian Philippot, député européen, président des Patriotes, et Eliott Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Le président du Parlement européen a annoncé cette semaine que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, allait venir à Bruxelles pour rencontrer les représentants du Parlement. Cette réunion qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine et permettrait d'aborder les problématiques liées à l'utilisation des données personnelles des Européens par Facebook. On sait d'ailleurs que Mark Zuckerberg sera aussi à Paris où il rencontrera le président de la République, je crois, ce jeudi. La régulation des acteurs du numérique et surtout des plus gros, on peut citer les fameux GAFA avec Google, Amazon, Facebook et Apple, se fait essentiellement à l'échelle européenne. On peut parler du RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, ou la taxation également des entreprises du numérique. Dans le débat de ce soir, on se pose la question de savoir si cette régulation des acteurs du numérique doit se jouer à l'échelle de l'Europe, comment, ou bien si la France peut et doit aussi conserver un rôle sur ces sujets. D'une part, l'Union européenne apporte un poids non négligeable dans le rapport de force pour peser face à ces acteurs du numérique. D'autre part, il y a les limites de l'Union européenne avec la nécessité de faire s'accorder des pays membres sur une directive, une direction à suivre où les disparités d'un pays membre à l'autre sur ces sujets existent, notamment, on l'a vu récemment, avec l'Allemagne. On commence par vous, Florian Philippot. D'abord, merci de rejoindre les débatteurs de cette émission. Vous êtes député européen depuis 2014. Quel est, selon vous, le rôle de l'Europe dans la régulation des acteurs du numérique ?
Oui, bonsoir à vous. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit en introduction sur le président de Facebook, M. Zuckerberg, qui viendrait au Parlement européen. En réalité, c'est quand même très dommage parce qu'il va être à huis clos et il ne va rencontrer que les présidents de groupe. C'est-à-dire qu'il va rencontrer 7 ou 8 personnes et non pas l'ensemble des plus de 700 députés européens. Et nous avons réclamé, au titre des Patriotes notamment, et de mon groupe, le FDD, l'Europe de la liberté et de la démocratie directe, qu'il puisse s'exprimer en plénière, comme ça nous semble normal.
Et comme il l'a fait aux États-Unis dans le Congrès récemment.
Aux États-Unis.
C'était pas en plénière, mais il y avait tous les groupes et tous les...
Ou en tout cas, que ce soit beaucoup plus large et pas à huis clos. Bon, enfin, tout cela, on est habitué, vous allez me dire, au niveau européen, puisque l'Europe négocie des traités sans qu'on ait même le droit, nous, députés européens, de les voir. Je pense au traité de libre-échange avec les États-Unis, le TAFTA, avec le Canada, avec l'Amérique du Sud, etc. etc. Ça, c'est un gros problème. Alors, sur le reste, c'est un enjeu. Je suis très heureux qu'on puisse parler de ces sujets parce que c'est un vrai enjeu politique, pour le coup, au sens noble du terme. Ça intéresse la cité. Moi, je dis même les GAFAM parce que j'y ajoute Microsoft. Et je pense qu'effectivement il y a un problème derrière, on le sait, économique et fiscal, avec cette optimisation fiscale, ce qui fait que l'activité qui est réalisée par exemple en France ne produit pas ou très peu d'impôts. Il y a un problème démocratique, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec ces regrets, ces aveux de Facebook par exemple, il y en a d'autres, sur l'utilisation des données personnelles. Et puis il y a un problème écologique, ça je trouve qu'on en parle peu. C'est que ces GAFAM utilisent de très gros serveurs et que ces serveurs consomment énormément d'énergie, d'électricité.
Et partout dans le monde, c'est souvent plus d'un million d'ordinateurs reliés.
Et qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle un crack de capacité, c'est-à-dire un problème entre l'énergie qu'on est capable de produire et l'utilisation de l'énergie par ces serveurs. Et là, pourtant, on sait qu'il y a des choses à faire. Je sais qu'Apple, par exemple, avait été félicité par Greenpeace en 2015 parce qu'ils ont réussi à réduire de 56% la consommation par leurs serveurs géants. Et il faut absolument encourager ou contraindre ces très grandes entreprises à aller dans ce sens-là parce que c'est peut-être un des problèmes les plus importants. Alors le rôle de l'Europe, enfin on y reviendra, je ne vais pas tout dire maintenant, mais si vous voulez, le rôle de l'Union européenne, le problème si vous voulez, structurelle de l'Union européenne, quand vous lui demandez de réguler des grandes entreprises, c'est que la législation de l'Union européenne est sécrétée généralement par les grandes entreprises. Ça fonctionne comme ça, l'Union
européenne. Grâce à des lobbies, etc.
Ben, bien sûr. Bruxelles, c'est la ville au monde où il y a le plus de lobbies, devant Washington. C'est fait de manière en plus complètement confidentielle. Vous avez la Commission européenne qui a un monopole d'initiative en Europe et qui est influencée par ces lobbies industriels ou financiers ou bancaires ou chimiques d'ailleurs. Ça, c'est un autre problème qu'on a, mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Et il se trouve que, alors, il est compliqué de lui demander quoi que ce soit. On l'a vu sur la taxation de 3% sur les revenus pour ces fameux GAFAM, où eh bien, ça a fini par... alors que la France était quand même assez allante en pointe, bien sûr, sur ce sujet, ça a fini par capoter, notamment parce qu'il y a au sein de l'Union européenne des pays qui sont des paradis fiscaux, l'Irlande, Luxembourg, Malte, et qui n'ont pas intérêt du tout à ce qu'on aille dans cette direction. Ce qui prouve qu'agir toujours au niveau de l'Union européenne, intuitivement, on se dit on est plus gros, on est plus fort, et en fait, dans la réalité, on avance souvent moins vite que si on avait une législation nationale coordonnée, bien sûr. Moi, je suis pour une coordination internationale et même bien au-delà de l'Europe sur ces sujets-là. Ce sont des sujets mondiaux.
Et l'autre, le Perse ?
Je pense que la problématique de la régulation au niveau européen, c'est qu'on a affaire à des entreprises qui sont extrêmement difficiles à saisir, extrêmement impalpables, et qui d'ailleurs, pour la plupart d'entre elles, et c'est le gros enjeu actuellement, n'ont pas d'activité déclarée dans les pays où elles existent. C'est le cas en France. Tous les GAFAM dont on parlait plus tôt, leur chiffre d'affaires en France s'élève à quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui est absolument ridicule par rapport à
quelques
la réalité.
Quelques millions maintenant, en fait.
Voilà.
Mais c'est très peu en effet par rapport aux milliards sans doute.
Par des mécanismes où on s'enregistre dans différents pays. Donc c'est la problématique.
Mais qui sont légaux d'un point de vue de l'Union européenne.
Complètement. Et c'est pour ça que l'enjeu du numérique pose la question de la coopération, parce qu'on a absolument besoin d'avoir une visibilité de l'activité réelle. Une des mesures qui est intéressante, c'est le reporting pays par pays, c'est-à-dire d'avoir effectivement une unité de mesure et de visibiliser l'activité réelle qui est produite par ces entreprises dans les différents pays où elles opèrent. Et donc simplement là où elles ont une activité et pas forcément là où elles déclarent des revenus. Pour revenir sur le RGPD dont on parle beaucoup, c'est la semaine prochaine que ça arrive, hein, vendredi prochain, c'est l'heure. Le RGPD va entrer en vigueur en France. La CNIL, elle existe depuis 1974 en France. La CNIL, elle opère en France. Elle a pour 90% du texte qui entre en vigueur vendredi prochain, ce sont les textes qui existent déjà en France. Simplement, ils ne sont pas appliqués. Et depuis 1974, il n'y a pas une amende qui a été donnée à une grande entreprise qui enfreindrait ces règles alors qu'elles le font toutes. Et donc, on voit bien l'importance de ce texte aujourd'hui et donc d'avoir une réaction qui se passe à un niveau extrêmement large, c'est de peut-être mettre en place des mesures coercitives contre ces acteurs-là qui agissent de manière déloyale.
Louis Fez.
Bah évidemment, parce que la question qui se pose quand on liste toutes les difficultés qui existent au niveau européen pour mettre en place des politiques contraignantes, la vraie question c'est est-ce qu'au niveau national tout ça est possible ? Évidemment, la plupart du temps on a l'impression que non, parce que la justice souvent d'ailleurs ne se déclare pas compétente, c'est impossible de faire appliquer des amendes et qu'on est dans un rapport de force complètement disproportionné. Florian Philippot, vous faites comme si on avait les moyens d'avoir une politique absolument contraignante et cohérente face à des GAFAM tout seul, certes de manière coordonnée, mais tout seul.
Non, mais justement, pas tout seul. Mais qu'on puisse faire, parce que là, on est dans une grande impuissance. Parce que nous sommes dans un niveau où il y a des passagers clandestins, c'est-à-dire ceux qui profitent de l'argent, l'Irlande par exemple, avec les sièges fiscaux qui sont déclarés là-bas. Donc les impôts sont faibles, mais ils sont quand même payés là-bas. Mais par contre, ils ont le pouvoir de bloquer au niveau européen. Donc en réalité, je pense qu'on n'est pas au bon niveau. C'est un peu comme le commerce.
C'est quoi le bon niveau, alors?
Le bon niveau, c'est d'agir au niveau national et d'essayer, par les instances internationales, bien au-delà de l'Europe. Attention, l'Europe, c'est 10% de la population mondiale. Il faut viser bien au-delà aujourd'hui. On n'est plus dans les années 1950. Entre-temps, il y a eu la mondialisation. Donc le critère géographique territorial a moins de pertinence qu'avant. Il faut raisonner au niveau mondial, mais sur la base forcément de ceux qui peuvent. Et en matière, par exemple, d'optimisation fiscale, GAFAM, mais même en dehors, au niveau national, on pourrait faire des choses, par exemple, pour lutter contre, on le sait, une des grandes clés de l'optimisation fiscale, c'est pas illégal, hein, mais ce que font les grandes boîtes, c'est par exemple, elles jouent sur les prix de transfert. Donc, elles transfèrent, elles fabriquent dans un pays, elles revendent à une filiale dans votre pays, en fait, à un coût complètement démesuré, pour essayer de creuser la là-bas, de creuser, de faire les bénéfices dans un certain pays où il n'y a pas d'impôts et de creuser les pertes dans votre pays où il y a plus d'impôts. Alors ça, si on avait le droit et la capacité et la compétence de le faire, en gros, si on n'était pas dans l'Union européenne, pour être clair, parce que sinon on n'a pas le droit de le faire, eh bien, on pourrait agir contre l'optimisation fiscale et récupérer des milliards, voire des dizaines de milliards d'euros par an. Mais là, on ne peut pas le faire.
Mais c'est des pays comme l'Inde ou le Brésil, oui, ou même l'Égypte, dans un autre registre, ou la Turquie, ont essayé de le faire. Ils n'y arrivent pas non plus. Donc comment la France pourrait le faire seule ?
Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense qu'en tout cas, il faut se donner le maximum de moyens et de capacités pour pouvoir le faire. Et autant, moi, je suis favorable même à des coopérations aussi au niveau européen sur ces sujets-là, mais pas que, et surtout pas en tout cas qu'il y ait une compétence juridique européenne, parce que je pense que ça bloque quand vous avez au milieu de cet espace, encore une fois, le Luxembourg, l'Irlande, Malte, etc., qui bloquent toute la machine.
Et même l'Allemagne pour une partie.
Et en partie l'Allemagne. Mais ça me fait penser, si vous voulez, aux accords commerciaux. C'est la même chose. On nous dit qu'on sera plus fort si on donne la compétence à la Commission européenne pour négocier nos accords de commerce. Vous savez, l'industrie, l'agriculture, tout ce qu'on négocie. Alors on l'a fait. Et on a, par exemple, on a négocié le CETA avec le Canada. Mais on ne s'est pas rendu compte qu'en face, on avait le Canada. Et là, c'est un pays. C'est 35 millions d'habitants. C'est 60% du PIB de la France. C'est grand sur une carte. Mais en fait, ce n'est pas un si grand pays que ça. Économiquement et démographiquement, c'est plus petit, bien plus petit que la France. Et pourtant, ils ont plutôt réussi et gagné leurs négociations face à l'Europe, qui représente 500 millions de personnes. Et pourtant, on a perdu. Pourquoi on a perdu ? Parce que nous n'avons pas un intérêt uniforme, si vous voulez, homogène, défini, connu même. Quel est l'intérêt de l'Europe ? C'est compliqué. Il y a l'intérêt de l'Allemagne, il y a l'intérêt de la France, ce ne sont pas les mêmes. Il y a l'intérêt de l'Irlande qui n'est pas le même non plus. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je veux déconstruire cette fausse idée de dire « big is beautiful ». Moi, je pense qu'on peut faire...
Vous voulez « small is beautiful » ?
Être plus agile.
Pour le résumer.
Non, parce que je pense que la France n'est pas petite, mais il faut être agile. C'est ça, l'heure de la mondialisation au XXIe siècle. Et puis se coordonner au niveau mondial. Et il y a sûrement des structures de coordination qu'on n'a pas inventées. Ça, c'est un vrai sujet au niveau mondial sur ces grands... Vous savez, quand on a créé la Poste, qu'on a mis des câbles au fond des océans au XIXe siècle, on a créé des instances mondiales pour essayer de coordonner tout ça. Et là, on a les GAFAM qui ont surgi, on a la question du numérique, d'Internet. Et pourtant, on n'a pas créé ces instances de coordination au niveau international.
Bien qu'il y ait l'UIT, l'Union internationale des télécoms, mais qui est assez fragile en matière de numérique.
Mais c'est assez très ancien tout ça.
Et Elliot Lepers.
Là, on est sur un sujet qui est vaste. On est sur des problématiques aussi, et ça c'est peut-être assez unique dans l'histoire, où on a une forme de synchronicité des problématiques et des enjeux auxquels sont confrontées les différentes nations. On est en train d'appréhender des nouvelles technologies à un rythme extrêmement rapide et de voir l'influence que peuvent avoir ces technologies sur nos usages, sur nos économies. On est en train de découvrir ça en l'espace de 20, 30, 40 ans. Et la réponse coordonnée qui est celle que peut opérer l'Europe, et je ne dis pas que ça fonctionne parfaitement aujourd'hui, il y a plein de choses, on est avec le RGPD peut-être un des tout premiers exemples de coordination qui fonctionne.
Et faut le noter. Parce que mine de rien, vous disiez, Florian Philippot, que ça ne marchait pas. Néanmoins, là, pour le coup, on a bien vu que les GAFAM, sur ce règlement, dont certains vont dire qu'il est beaucoup trop faible, qu'il n'est pas suffisamment fort, etc., mais en tout cas, s'y conforment. Et que clairement, ça commence à influencer d'autres pays en dehors même des frontières de l'Union européenne. Et que ça fonctionne. Donc, du coup, si la France toute seule avait instauré un RGPD, probablement, ça n'aurait pas marché.
Mais comme Elliot l'avait dit tout à l'heure, en fait, c'est 90% à la base de la législation française. Donc, si on a pu influencés par nos bonnes idées, c'est bien quand on en a d'autres pays, moi j'en suis très heureux. Il y a un manque quand même dans ce RGPD, si vous écoutez les petites entreprises qui essaient de se lancer dans le numérique, c'est pas facile avec la concurrence de ces GAFAM, c'est que, si vous voulez, pour être conforme au RGPD, règlement général sur la protection des données, il faut des services juridiques, parce que c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Et évidemment, les grandes entreprises n'auront aucune difficulté à avoir ces services support, ces services juridiques pour se
mettre en conformité. On se tire une balle dans le pied un petit peu.
Alors que les PME, les ETI, les petites entreprises, dont on aimerait qu'il y en ait beaucoup
et
plus.
Et qui sont françaises.
Bah oui, et des françaises dans ce secteur du numérique, elles n'auront probablement pas suffisamment de revenus, de support, de services juridiques, n'auront pas les moyens de se les payer.
Et donc la CNIL communique beaucoup sur ces questions-là quand même. La CNIL d'ailleurs ne cesse de communiquer à mesure du moment où on se rapproche.
Oui, c'est
de
un sujet qui est appréhendé, mais qui malheureusement, dans la version qui a été votée en France, enfin transposée, c'est une directive transposée le 14 mai en France, du RGPD, il n'y a pas cette prise en compte de la problématique des petites entreprises. Or, la France est en retard sur les petites entreprises, elles ne sont pas assez numérisées, il n'y en a pas assez. Et ça, c'est le manque aussi en France d'un État stratège. Et ça, c'est un autre sujet, mais en France, il manque un État stratège et il manque la capacité de faire du patriotisme économique. économique qui est, je le rappelle, interdit par l'Union européenne.
Alors en 2015, on a lancé un projet de marché unique numérique européen pour adapter le marché unique de l'UE à l'ère numérique. L'idée, c'était de faire tomber les barrières réglementaires et transformer les 28 marchés nationaux en un marché unique. Ce marché, dit-on, pourrait générer 415 milliards d'euros par an pour notre économie et créer des centaines de milliers d'emplois. Vous y croyez les uns et les autres, Florian Philippot, Eliott Lepers?
Honnêtement, non, parce que... Relisez les déclarations sur le marché unique qui devait naître le 1er janvier, je crois, 1993.
Il n'était pas numérique à l'époque.
Oui, bah, c'était tout à l'époque déjà. C'était les capitaux, les hommes, les produits, les marchandises, la liberté d'installation. C'était extraordinaire. Ça devait créer des centaines de milliards d'euros et des points de croissance. En veux-tu, en voilà, et des pleins de millions d'emplois. Et on a eu une récession. Alors, c'est pas forcément lié. La récession était liée d'ailleurs à la préparation du passage à l'euro quand on a accroché le franc fort au Deutsche Mark. Mais bon, mais il se trouve que ce grand marché, en réalité, on n'en a pas vu vraiment la couleur. Moi, je suis pour le libre-échange et l'ouverture des frontières quand il y a une concurrence loyale. Je pense que la concurrence, c'est de l'émulation. C'est positif.
C'est ça.
Bien sûr. Quand elle est déloyale, y compris en matière fiscale, alors il faut être capable de se protéger. Il faut arrêter d'être naïf. Alors c'est un peu le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle nous pousse à ne jamais nous protéger et à être quand même sérieusement naïf par rapport à d'autres grands acteurs mondiaux. C'est pour ça que moi je veux que la France quitte l'Union européenne. Je pense qu'on serait beaucoup plus fort et beaucoup plus agile et beaucoup plus dans le monde finalement si on n'était pas bloqué dans l'Union européenne.
Eliott Lepers,
sur ce point en particulier, les résultats sont pas encore explosifs, hein, donc il faudra voir. Je pense qu'en revanche, il y a un frein qui aujourd'hui pèse sur l'économie européenne face à celle des États-Unis, c'est notamment la langue. C'est que aux États-Unis, on a un marché de 350 millions d'utilisateurs ou d'utilisatrices potentielles qui parlent la même langue. Et aujourd'hui, c'est un énorme frein pour les produits français, notamment, parce que vous avez beau lancer le même produit au même moment, et bien vous avez beaucoup moins d'utilisateurs.
On va pas se mettre à tous à parler anglais. Donc, quelle est la solution ?
Non, c'est pour ça que construire dans un marché en facilitant l'échange et notamment des connaissances, notamment de la propriété intellectuelle, en facilitant l'échange des talents, parce que ça, c'est un énorme enjeu aujourd'hui en Europe. Le nombre d'entreprises françaises qui travaillent avec des talents qui viennent de partout en Europe, et ça se passe dans tous les pays, on a un enjeu de développer un marché pour effectivement construire un terrain qui est équivalent au terrain des États-Unis, qui aujourd'hui prend énormément d'avance sur le numérique. C'est moins le cas. Mais c'est parce qu'on facilite, c'est parce que notamment on a Erasmus et qu'on a ces mécanismes-là de coopération qu'on arrive aujourd'hui à faire émerger des pépites dans notre écosystème numérique. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'on va voir dans les années qui viennent, ça commence maintenant, on va voir l'impact de ces politiques-là sur le numérique. Et on entre, j'ai l'impression, dans une phase où effectivement, il va y avoir des grandes entreprises du numérique qui émergent via l'Europe et un peu moins via les États-Unis.
Pour terminer, qu'est-ce que vous pensez des pénalités, des procès aussi que la Commission européenne, notamment la commissaire en charge de ces questions, Margrethe Vestager, qui est assez audacieuse sur ces sujets, les pénalités qu'elle a adressées à Google, à Apple, les contrôles qui est fait, en plus des taxations fiscales qui sont envisagées, est-ce que c'est trop tard, est-ce que ça va dans le bon sens, Florian Philippot?
C'est quand même toujours extrêmement mineur. On parle quand même d'entreprises qui représentent 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc, si vous voulez, quand vous leur infligez...
Au niveau global, au niveau mondial.
Ouais. Oui, non, mais je parle juste des 5. Là. Quand vous leur infligez quelques centaines de millions d'euros d'amende, en réalité, vous n'êtes pas dissuasif. Je regrette, vous parlez d'une commissaire, vous voyez, vous citez son nom, personne ne la connaît. Enfin, c'est un problème démocratique majeur. C'est qu'on parle là de sujets. Ici, vous la connaissez sûrement, mais je vous assurais que dans l'opinion publique générale, je pense qu'elle est peu connue. On parle quand même de sujets démocratiques, financiers, je disais écologiques aussi, majeurs. Et pourtant, vous voyez, c'est discuté dans des antichambres. Et ça, c'est un des problèmes majeurs de l'Union européenne, c'est que des questions démocratiques essentielles, des pans entiers du débat public échappent. En réalité, au peuple, à l'opinion publique, et c'est absolument dramatique. C'est pour ça que j'ai commencé par vous remercier de faire ce débat ce soir sur une grande radio française, parce que c'est quand même incroyable qu'on ne parle pas de cela, notamment dans le débat politique. Nous, chez les Patriotes, le premier livret qu'on a publié, c'était sur la question numérique et l'intelligence artificielle, et qui est un autre sujet, mais sur ces grandes questions d'avenir. Vous voyez, on essaie dans ce mouvement, jeune mouvement politique, d'être en pointe sur ces sujets-là.
Sur votre votre site, je n'ai pas trouvé d'ailleurs.
Peut-être l'acronyme GAFAM, ouais. Bah, oui, on va réparer
pour
ça.
Terminer.
Mais en tout cas, nous avons fait un livret qui s'appelle Les Cahiers de l'Agora, puisque nous avons à la base des adhérents qui discutent entre eux, ils produisent des choses, et puis on formalise tout ça dans des cahiers. Il y a un cahier de l'Agora sur la question du numérique, et je n'ai pas vu d'autres mouvements politiques en faire autant.
Quelques fondations l'ont fait, pour terminer, Luc Depers sur ce sujet.
Sur les sanctions, on va voir, parce que là, donc on va voir à partir de vendredi, est-ce que samedi, il va y avoir des premières amendes qui vont être publiées. Moi, j'attends avec impatience, effectivement. Pour l'instant, les agences disent plutôt qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'agir, donc ça va être le deuxième levier, c'est de renforcer leur capacité à faire appliquer ces amendes, maintenant qu'elles ont la possibilité de les mettre en place. Et puis derrière, peut-être qu'on va effectivement pouvoir travailler sur le climat, un RGPD du climat, ce serait intéressant.
Merci infiniment à tous les deux. On en reste là
Merci
pour
beaucoup.
Ce soir. Merci à Elliot Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG Le Mouvement.ONG. Merci à Florian Philippot, député européen, président des Patriotes. La semaine prochaine, on parlera des millennials, comment ils consomment, comment ils communiquent et comment ils s'aiment aussi. Et on parlera des mots du web, justement, dans Soft Power.